Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste.
Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
À l'ère de la mondialisation qui uniformise les peuples et les cultures, tout en exacerbant la montée des nationalismes identitaires, il nous a paru intéressant de relire aujourd'hui le récit biblique de la tour de Babel, qui clôt le livre de la Genèse. Il fait partie de ces grandes pages de l'Écriture que l'on croit connaître par cœur, mais qui n'ont jamais fini de nous surprendre et de nous interroger. Ce texte se trouve au chapitre 11 de la Genèse, versets 1 à 9, dans la Bible de Jérusalem. « Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. » Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom. » Et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Or Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et Yahvé dit, « Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leurs entreprises. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons. » Et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Yahvé les dispersa de là sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. La relecture de ce récit célèbre a pu surprendre nos auditeurs par sa grande concision, signe d'une grande qualité littéraire. Avant de le reprendre au fil de la narration, pourriez-vous, Père Alain, nous rappeler ce que l'on sait sur son origine et le resituer dans les récits de la Genèse et dans la suite du Pentateuque ?
Alors oui, c'est vrai que ce texte est très marqué par l'exil. On pourrait dire, c'est l'occasion de mettre ça en valeur, lorsqu'Israël est allé en exil, ils vont découvrir l'univers de Babylone, avec ses richesses, avec ses grandes constructions, ce qu'on appelait les ziggourats. Les ziggourats, c'était les constructions énormes, avec cette idée que Dieu était dans ce pays-là, il y avait une présence de Dieu, le mot d'ailleurs Bab-Ilanu, en sémitique, en plusieurs langues sémitiques, en arabe ou en hébreu, Bab, ça veut dire la porte des dieux. C'est-à-dire cette idée que c'était le lieu, et en particulier au sommet de cette tour, c'est le lieu où Dieu dominait le monde. Et cette idée va marquer les Hébreux qui vont arriver, et à partir de ce qu'ils verront, ils vont construire un récit extraordinaire pour essayer d'expliquer un certain nombre de choses ou de poser, sinon expliquer, un certain nombre de réalités autour de la société, autour du langage, autour des différents... Enfin, beaucoup de choses. Comment vivre en société? Comment avoir une même langue? Enfin, tout cela va se poser et ce récit, évidemment, est très riche parce qu'il ouvre beaucoup de voies dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de la Bible et dans notre histoire à nous aussi.
Et il va faire un peu une transition avec la suite, puisque là on est à la fin de la Genèse et ensuite on va rentrer dans le cycle d'Abraham.
Oui, c'est vrai que les 11 premiers chapitres de la Genèse ouvrent l'histoire de la Bible, mais il s'éclaire aussi par la suite. Et une tradition juive a souligné que Dieu, quand il a créé l'homme, s'est interrogé de savoir s'il fallait pas avoir quelqu'un de recours au cas où ça marcherait pas. Et il s'est dit, je vais mettre de côté Abraham, avec lui je suis sûr que l'alliance va se faire en route, va se faire chemin, et donc ça sera une nouvelle alliance, qu'on pourrait dire l'alliance abrahamique, qui va traverser le temps jusqu'à l'alliance mosaïque. Et donc c'est un autre temps qui commence.
Alors maintenant nous allons reprendre le texte pas à pas. On peut le découper en quatre parties. Il y a un verset 1 qui est une très brève introduction. Ensuite, les versets 2 à 4 présentent l'intervention des hommes. Les versets 5 à 8 rapportent l'intervention de Dieu. Et le verset 9 conclut sur la situation finale connue du narrateur. Dans le verset introductif, le narrateur se contente de constater l'existence d'une langue unique pour tout le monde. De qui et de quoi s'agit-il, Père Alain ?
Oh, c'est un peu une mythologie, là aussi, de penser que l'homme, à une époque, alors moi je ne connais pas très bien la préhistoire, aurait eu une seule langue. D'abord, il a fallu qu'il apprenne à parler. Le premier homme était un homme, comme on l'a appelé, homo tacens. C'est l'homme qui se taisait. Ensuite, ça va être l'homo grognant, l'homme qui grogne. Et puis l'homme qui parle, et donc la parole a été une étape dans la vie de l'homme. Et à travers les récits, c'est un peu tout cela que l'on peut toucher. Et ici, cette idée que nous donne le texte, qui était sans doute l'esprit de l'époque des écrivains, qu'il y a eu un moment donné où il n'y a eu qu'une seule langue et les mêmes mots sur toute la cité. Je pense que ceux qui ont écrit ce texte ont découvert d'autres langues, donc ils essaient de se dire au tout début, c'était pas comme ça, c'est souvent comme ça qu'on repense le commencement, et donc on va construire un récit à partir d'un moment, d'une étape où il y aurait eu une seule langue qui faisait la communion de tous les hommes, avec le risque aussi de leur donner un pouvoir, comme cela se montre dans le récit.
Alors ensuite, la deuxième partie du récit relate le déplacement d'hommes à l'Orient qui s'établissent dans une vallée du pays de Shinéar. Ils veulent y construire une ville et une tour qui doit pénétrer les cieux. Ils désirent se faire un nom et ne plus être dispersés sur la terre. Qui sont ces hommes? Où est Shinéar? Quelle est la finalité de leur projet d'urbanisme?
Je crois qu'il faut penser en fonction de l'aventure d'Israël en exil. Israël a été ébloui par Babylone. On a du mal à le penser, ça, mais Babylone, c'était une puissance extraordinaire. Et quand les exilés sont arrivés, quand ils ont vu ces grandes constructions déjà à ce moment-là, ils ont été inspirés. On a du mal aujourd'hui à se rendre compte de l'inspiration qu'apportera l'exil à ceux qui vont écrire la Bible. Et donc ici, à partir de ces grands immeubles construits qu'ils vont découvrir, ce qu'ils appelaient les ziggourats, il y avait cette idée qu'au sommet de la ziggourate, il y avait peut-être une déesse, une figure divine tout à fait en haut. Et donc, à partir de là, ils vont construire un récit à la fois sur la domination d'une langue, parce que je crois que si on veut bien comprendre ce texte, il faut partir de ce que pourrait être encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça serait une langue qui serait universelle, qui serait imposée à tout le monde? Et c'est ça qu'ils ont dû percevoir, c'est la langue de la Mésopotamie, la langue de ces hommes puissants, armés, qui régnaient sur le monde entier, et donc cette idée qu'on va conquérir le ciel avec notre puissance.
Alors, au sujet de la construction de la ville et de cette fameuse tour pour monter jusqu'au ciel, le narrateur se contente de parler des matériaux utilisés, des briques cuites qui remplacent la pierre, et du bitume à la place du mortier. Pourquoi donne-t-il ces seules précisions techniques? Que nous apprennent-elles sur le contexte du récit?
Il ne va pas chercher plus loin, il part de ce qu'il connaissait, c'est-à-dire les hommes travaillaient avec des briques. Donc les briques étaient les outils pour construire les maisons. Donc il part de ce qui est connu à l'époque, donc il n'y a rien de particulier à noter. C'est très clair. L'enjeu n'est pas tellement de savoir avec quels matériaux ils vont construire, c'est qu'est-ce qu'ils vont construire et pourquoi faire. Donc c'est ce rêve de monter jusqu'au ciel. Il y a quelque chose derrière. La langue unique que Dieu va disperser, et une façon d'expliquer aussi que, à l'époque où l'auteur écrit, les langues sont variées, les langues sont dispersées. C'est-à-dire, il remonte à une époque où ce n'était pas le cas. Et il essaie d'expliquer pourquoi diverses langues cohabitent, que chacun ne les connaît pas toutes. Et donc, il rêve d'une période où ça serait possible et que Dieu va démolir, parce que Dieu ne supporte pas que l'homme puisse conquérir le ciel et à juste titre.
Alors, on reste quand même un petit peu sur notre fin par rapport à cette tour, parce qu'on a envie de savoir plus précisément ce que c'est. Vous avez parlé tout à l'heure des ziggourats. Bon, il faut qu'elles pénètrent les cieux. Est-ce qu'on peut imaginer que c'était un édifice civil, militaire, ou bien d'un monument religieux qui pourrait faire penser par exemple aux pyramides égyptiennes ou même aux flèches de nos cathédrales?
Non, c'était des lieux religieux, c'est-à-dire le sommet, le rêve était de conquérir le ciel, c'était une symbolique au fond, à travers la grandeur de ces tours, au moins c'est ce que... Alors, ce qu'ils ont voulu faire, ça on ne le saura jamais, ce que l'on peut savoir, c'est comment les Hébreux, quand ils sont arrivés, vont s'inspirer de ces monuments pour essayer de penser l'histoire, penser la relation à Dieu, penser la place de la langue. Est-ce qu'il y a plusieurs... Parce qu'ils savaient qu'il y avait plusieurs langues. Et au tout début, ils ont imaginé qu'il n'y en avait qu'une. Et ce sera une manière de dire, la dispersion des langues, c'est un peu un châtiment. Aujourd'hui, nous ne dirions peut-être pas ça. Et peut-être qu'il y a une deuxième lecture qui nous fera dire au contraire que la dispersion des langues, c'est une richesse et non pas un manque. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Il n'y a rien de pire qu'une langue unique. L'américain, par exemple, s'il n'y avait que la langue américaine pour régner sur le monde, s'il n'y avait que les Russes pour régner sur le monde, non, c'est la diversité qui fait la beauté du monde. Et donc, vous voyez, là, on est déjà un peu dans la Pentecôte, si vous voulez. La vision du récit, elle est ce qu'elle est, mais nous, on a envie de la relier à la Pentecôte, parce que là, ça sera l'inverse. C'est-à-dire, il y aura diversité des langues, chacun parlant la langue de la sienne, et chacun comprenant l'autre. On en reparlera sans doute vers la fin de notre propos.
Oui, et on peut dire au passage, à une époque, il y a eu le projet de créer l'espéranto, qui devait être la langue universelle, ça n'a pas abouti, finalement.
Non.
Alors, dans la troisième partie du récit, Dieu descend pour voir la ville et la tour. Il constate que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et qu'aucun dessein ne sera irréalisable pour les hommes. Quel est ce Dieu qui vient contrôler ce que font les hommes? Serait-il jaloux?
C'est pas le Dieu de l'Exode. C'est pas le Dieu de tendresse que nous connaissons dans le livre de l'Exode. C'est le Dieu jaloux, effectivement. La mythologie, elle est sous-jacente à ces textes-là. On le voit bien qu'il y a toute une vision d'un Dieu jaloux et que l'homme veut empêcher, au fond, de conquérir le ciel. On va faire d'autres lectures après cela, mais si on en reste à cette lecture, Dieu, devant cette puissance de ces hommes en recherche de pouvoir, y compris de prendre Dieu, va les disperser au lieu de les laisser monter vers lui. C'est-à-dire, nous, on va aller plus loin dans nos lectures, parce que on pourrait déjà dire, pour les chrétiens, c'est pas nous qui montons au ciel, c'est Dieu qui descend pour nous rejoindre. Mais là, on est déjà dans une lecture plus spirituelle, mais qui est légitime, comme on pourra le montrer un peu plus loin.
Alors, Dieu veut confondre leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Il les disperse sur toute la terre et la construction de la ville s'arrête. Pourquoi veut-il ainsi contrecarrer le projet des hommes? Que leur reproche-t-il finalement?
Je pense que c'est une influence, faut pas mettre trop de valeur et trop de signification à cette dimension. Je pense que c'est à partir de la vision que les Israélites ont eue quand ils étaient en Mésopotamie, d'une langue qui était une langue dominatrice, une langue conquérante, une langue qui donnait le pouvoir, qui faisait régner, une langue qu'on imposait. Il y a eu beaucoup d'empires en Mésopotamie, dans la région, qui ont imposé leur pouvoir sur toutes les régions, y compris sur la Palestine, y compris sur les Hébreux. Donc, il y a cette idée qu'une langue unique, c'est dangereux quand elle est un pouvoir dominé. Et Dieu va disperser les langues, et d'une certaine manière, c'est une dispersion qui peut sembler un châtiment, mais nous arriverons à dire peut-être que c'est au contraire une récompense.
Oui, on peut penser que Dieu veut diviser pour régner.
Voilà, et justement, ça c'est une vision mythologique, on pourrait dire. On ne peut pas isoler un texte, si vous voulez. Pour nous, quand nous le lisons, nous sommes obligés à la fois de le relier au début de la Genèse, mais de le relier aussi à ce qui arrive avec nous à la Pentecôte. C'est-à-dire où là, il y a une diversité de langues et chacun comprend l'autre. C'est différent. C'est pas l'un qui dominerait par sa langue à travers l'esprit qui nous est donné. C'est une langue universelle à laquelle nous participons et qui ressemble un peu à ce que nous connaissons dans l'Église où c'est pas tel pays, telle langue qui est dominatrice. C'est au fond l'Évangile avec cette langue universelle qui nous vient jusqu'à nous.
Alors on peut, donc si je vous suis bien, on peut quand même penser que l'auteur fait allusion discrètement au contexte historique de son époque, ce que
bien
vous
sûr.
Avez dit par rapport à Babylone, cette situation. Alors justement, vous avez commencé un petit peu à anticiper, quelle est la postérité de ce récit dans les Écritures? Comment a-t-il été relu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau?
Bien, on pourrait dire que ça commence par une vision qui souligne l'existence d'un Dieu un peu jaloux, comme s'il y avait eu un péché collectif de l'humanité. Et ici, le récit de Babel, pour nous, s'éclaire bien sûr par la descente de l'Esprit. C'est-à-dire à ce moment-là, on est dans la même dynamique, mais la diversité de langues n'est plus un châtiment, mais au contraire une richesse. Et dans l'Église dans laquelle nous vivons, c'est bien ce que nous expérimentons. Chaque langue a sa vie. Et on pourrait dire, en passant, le Concile Vatican II va remettre en valeur cette dimension. Autrefois, il n'y avait que le latin. Et avec Vatican II, on va dire à chaque pays, non, toutes les langues sont une langue de Dieu. Dieu parle dans toutes les langues. Et chacun les entendait parler en son propre idiome. Vous voyez, cette diversité de langues que chacun comprend. On devine bien sûr que derrière cette identité de langue, c'est la langue de l'amour qui traverse et qui dépasse les différences entre chacune des langues.
Alors, ce texte, on peut aussi le relire peut-être dans le contexte plus contemporain, plus actuel. J'ai vu que Thomas More en avait parlé dans un ouvrage qui s'appelle Utopie. Mm-hmm. Il parle de conjurer la malédiction de Babel. Il y a également, dans d'autres circonstances, Babel qui est présenté un peu comme la figure des pouvoirs totalitaires. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser ce texte pour une réflexion aujourd'hui, finalement, sur ce qui se passe? Je l'ai un peu dit en introduction, notamment cette espèce de paradoxe qu'il y a entre une tendance à la mondialisation, à l'unification des choses, et puis une tendance aussi à préserver les cultures locales, à préserver une certaine vision plus nationaliste des choses.
On pourrait dire beaucoup de choses, effectivement, qu'il pourrait y avoir un danger de puissance totalitaire, une langue qui serait uniformisée, où tout le monde devrait parler le même langage, avoir les mêmes vocabulaires, avoir la même façon de s'exprimer. Non, toutes les langues sont des langues qui sont capables de dire le mystère de Dieu. Dieu vient briser, je dirais, le totalitarisme d'une seule langue qui serait dominatrice. Tous les pays ont leur place. Et dans notre Église, c'est évidemment une des grandes richesses que Vatican II nous a apportées. C'est-à-dire, on comprend qu'une langue commune soit utile. Le latin a été précieux pendant longtemps, mais ce n'était pas une langue qui écrasait. Le latin, c'était la langue de l'Église, la langue de beaucoup de croyants. Aujourd'hui, certains veulent maintenir le latin. Bon, ça fait un petit peu archaïque d'une certaine façon. Les langues sont toutes des langues qui renvoient à Dieu. Et même, on pourrait presque dire aujourd'hui, à la différence de ce que dit le texte, la psychanalyse, par exemple, s'intéresse au problème du langage. La langue dans son originalité, donc c'est du positif que les gens n'aient pas les mêmes langues, les mêmes langages, on le voit bien. Ce n'est que lorsqu'une langue veut dominer la langue des autres que ça devient dangereux. Et on le voit à travers nos langues, même en France, quand on regarde, il y a plusieurs langues. Je suis breton, j'ai appris le breton quand j'étais petit, je veux dire, c'est une richesse. Et d'autres langues, donc l'important c'est l'esprit qui va éclairer toutes les langues et qui va faire que nous avons une langue commune que le Christ nous a apportée. Et le paradoxe, on pourrait dire, l'homme a voulu monter jusqu'à Dieu et c'est l'inverse qui est arrivé. Dieu est descendu à travers son fils. Il est descendu. Il est descendu. Le père de Foucault disait, il est descendu bien bas.
Voilà, on arrive au terme de cette émission. Il y aurait évidemment encore beaucoup de choses à dire sur ce débat qui n'est jamais fini, qui existe dans la société, qui existe dans l'Église. Comment concilier à la fois l'unité et la diversité? La diversité comme une richesse, vécue comme une richesse. Merci à vous, Père Alain Marchadour, pour nous avoir fait partager vos connaissances. Merci à Yannick Galupini qui assurait la réalisation. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique selon les Écritures avec le Père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.